The Artificial Kid est un cycle d'expositions et d'événements organisé à la Maison Populaire de Montreuil par Elsa Vétier, commissaire en résidence en 2022. Tout au long de l'année, ce cycle s'accompagne d'un programme radiophonique conçu en collaboration avec DU. Enregistré le 15 avril à la Maison Populaire, We Live in Public est une conversation autour de l'apparition de la télé-réalité entre Elsa Vétier et Olivier Haïm, enseignant-chercheur en théorie des médias. À partir d'extraits de films et d'émissions, Yael esquisse une archéologie de ce format et interroge ce qu'il doit aux expérimentations artistiques liées à l'enfermement et à la surveillance entre les années 70 et 2000.
Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être ici donc pour cette dernière soirée qu'on organise dans le cadre de l'exposition Aquarium, donc le premier volet de ce cycle à la Maison Populaire. Une soirée en collaboration avec DU. Donc la soirée est enregistrée, sachez-le. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Haïm, qui est juste à côté de moi, qui est donc chercheur en théorie des médias et maître de conférences à la Sorbonne, pour cette soirée consacrée à l'apparition de la télé-réalité. Bonsoir Olivier, merci d'être là.
Bonsoir Elsa, merci beaucoup de cette invitation. Merci à la Maison Populaire de Montreuil pour son accueil, toute l'équipe, et merci à vous d'être là. C'est un plaisir.
Derrière vous, Olivier, il y a The Amazing Fish Cam, qui était une image par laquelle j'avais envie de commencer la soirée, puisque c'est la plateforme qui donne son nom à l'exposition Aquarium. C'est une plateforme qui a été créée en 1994 par un ingénieur de Netscape, donc qui travaille dans la Silicon Valley, qui a décidé d'acheter un aquarium et de le placer dans son bureau devant une webcam et de créer une plateforme qui retransmettrait les images de cet aquarium 24 heures sur 24. Et comme vous pouvez le voir, cette plateforme est toujours en ligne, même si l'aquarium a disparu. Maintenant, il y a une petite note sur le site qui précise que la caméra est tournée vers l'extérieur pour filmer la vue depuis la fenêtre. Cette plateforme, elle m'intéressait dans le cadre de cette première exposition parce que j'aime l'idée que finalement, même si l'aquarium a disparu, la caméra continue à tourner comme si on avait oublié qu'elle était là ou comme si elle sous-tendait l'existence entier d'un pan de réalité qui risquerait de s'effondrer si on l'éteignait. Et aussi parce que c'est donc une des premières formes de télé-réalité qui existe, juste avant l'apparition sur Internet des camgirls, dont on va parler tout à l'heure. Et donc, parce que cette plateforme donne son nom à l'exposition, j'avais envie de dédier une soirée à la question de la télé-réalité et de son apparition. Plutôt qu'à ces évolutions récentes, ce dont on avait discuté aussi avec Olivier. Et donc, il est question ce soir de se pencher plutôt sur les expérimentations artistiques, cinématographiques, plastiques, qui ont précédé la diffusion de la télé-réalité à la télévision et qui ont participé à forger ce dispositif des premières émissions que l'on connaît. Consacrer aussi une soirée à l'apparition de la télé-réalité, c'est une manière de revenir sur la période des années 90, pendant laquelle Internet se développe et la vidéosurveillance se déploie dans l'espace public, et à laquelle il est fait référence dans le cadre de ce programme d'exposition à travers la figure de l'artiste Julia Cher, qui en tout cas a produit une grande partie de ses œuvres à cette période et dont certaines sont présentées dans le cadre de cette première exposition et qui seront également présentées dans le volet 2. Et puis dans ce cycle plus généralement, puisqu'il est question d'hypervisibilité, d'influence, d'incorporation de logiques de surveillance à la manière dont on se raconte, dont on se représente le monde, de formes de célébrité mais aussi d'anonymat et de disparition, il me semblait que la télé-réalité pouvait être un sujet d'étude intéressant, et notamment celle qui est apparue il y a 20 ans en France avec le Loft. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles cette soirée a été organisée, pourquoi je me suis intéressée à la télé-réalité. Et donc je me tourne maintenant vers Olivier pour lui demander justement comment lui, il en est venu à s'intéresser à la télé-réalité, et surtout comment vous l'avez inscrit dans le champ universitaire, puisque vous avez consacré une thèse, si je ne dis pas de bêtises, à la télé-réalité.
Oui, absolument. Alors, je vais être direct pour commencer, comme une sorte de coming out. Moi, j'ai découvert le Loft. Donc, moi, ça se voit, je ne suis pas de la génération... on en est où, Z, Y, etc. Donc, vraiment, j'ai découvert le Loft directement. Et donc, moi, je suis d'une génération où la télévision était le média de la centralité de l'ensemble de l'environnement médiatique. Et donc, moi, je me suis retrouvé en état de sidération quand est arrivé, effectivement, le Loft. J'avais conscience que c'était un piège scopique, un piège optique qui nous captait, mais j'étais totalement fasciné par ce qui se passait. Et le fait est qu'à l'époque, je dis à l'époque, comme si c'était déjà un objet historique, mais c'est déjà un objet historique. Ça, en France, ça a 21 ans, et Big Brother, c'est il y a 23 ans déjà. C'est incroyable. Et comme d'autres, j'ai essayé de comprendre l'objet auquel j'avais affaire. J'étais un peu dans la position que McLuhan, grand théoricien des médias, a bien vu sur la télévision, c'est-à-dire que pour lui, quand on est face à la télévision, on est toujours dans une position où on se demande, on est en train de se demander en direct à quoi on a affaire. Qu'est-ce que je suis en train de voir c'est ce qui explique, selon McLuhan, la force de captation de la télévision. Et donc, bon, ça aurait pu s'arrêter là. Il se trouve que, par ailleurs, j'étais en avril 2001, au moment où le Loft arrive, à la fin de ce qu'on appelait à l'époque, je parle donc vraiment... de manière historique, un DEA, ce qu'on appelle maintenant un master recherche, et je devais m'engager dans une thèse. Et effectivement, j'ai pris le pari de faire ma thèse sur la télé-réalité, et en me disant juste, de manière anecdotique, en me disant juste à l'époque qu'en fait, je ne serais pas le seul, que c'était tellement fascinant qu'il se passait quand même quelque chose sous nos yeux de massif, qu'il y aurait plein de thèses sur la télé-réalité. Et en réalité, il n'y en a eu que deux en France. Il y en a une en sociologie, puis il y en a une dans ma discipline qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication, où effectivement, on peut s'intéresser à la théorie des médias. Et dernier élément vraiment de biographie, après je m'en arrêterai là, je lisais beaucoup à l'époque Michel Foucault, la théorie des dispositifs, la théorie de la surveillance. Et donc là, il se passait vraiment une sorte de conjonction pour moi dans cette mise en spectacle de la surveillance. Et j'ai consacré effectivement 5 ans de thèse à essayer de comprendre cette mise en relation entre un spectacle de télévision et quelque chose qui renvoyait à un imaginaire de la surveillance.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'en discutant rapidement ensemble pour préparer cette soirée, on faisait le constat que ce format, en fait, il s'était développé bien en amont de son apparition à la télévision, et plutôt dans des champs qui lui étaient assez étrangers. Et on s'est dit que ce serait intéressant aussi ce soir de revenir un peu comme ça au cas par cas sur des exemples de proto-télé-réalité qui ont pu se développer dans des contextes artistiques ou dans le contexte d'Internet.
À plus forte raison que c'est une histoire qui est finalement soit oubliée, soit très méconnue. On croit la connaître, mais en fait, toute cette histoire à la fois médiatique et artistique et plastique de l'émergence de la télé-réalité, elle est très peu connue. Tout le monde peut dire quelque chose sur la télé-réalité, on voit les évolutions, mais revenir à ce qu'on appelle l'archéologie médiatique de la télé-réalité, je pense que ça peut être intéressant aussi.
Pour ma part, j'ignorais des formes qu'on appelle le livecast, donc qui sont nées dans les années 90 avec le développement d'Internet et qui sont clairement aussi, je pense, à l'origine, enfin qui mettent la puce à l'oreille des producteurs de télévision, je pense, à la fin des années 90. Mmh. Et notamment, il y a donc Jenny Cam. Jennifer Ringley, qui est donc cette étudiante qui décide d'installer une caméra dans sa chambre de résidence qui décide de diffuser ses images en live sur Internet. Donc on est à la fin des années 96, début des années 80, de l'année 97. Pour l'Internet de l'époque, on est plutôt sur une forme de diaporama que de ce qu'on imagine de streaming. Hein, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a toutes les 15 minutes une photographie qui se met en ligne. Et finalement, elle développe son propre dispositif, c'est-à-dire qu'elle va mettre des caméras, de plus en plus de caméras dans son appartement, de manière à vraiment couvrir un peu toute son intimité. Et de rendre vraiment complètement visible sa vie quotidienne.
Mais c'est vrai que la Jenny Cam, c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement regardé. On a fait des sortes de ratios de calcul d'audience de l'époque et c'est absolument fou. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a presque un internaute sur 20 qui suit la Jenny Cam. Donc c'est extrêmement important, parce que d'un point de vue là aussi historique, elle fait un geste. Tout à l'heure, on a vu les premières webcams qui étaient soit sur un aquarium, soit sur des machines à café, juste pour voir le niveau de la cafetière, donc avec effectivement un taux de rafraîchissement des images qui est à l'époque extrêmement, extrêmement lent. C'est-à-dire ce geste finalement qui nous accompagne dans toute une série de pratiques actuelles. Il suffit de penser à ce que c'est qu'un selfie, c'est-à-dire, voilà, c'est le renversement. Elle fait ce geste de renverser la caméra vers elle. Et donc là, effectivement, là encore, tout à l'heure, je parlais de McLuhan, pour répondre à votre question, toutes les questions se posent de savoir pourquoi elle fait ça, dans quel intérêt. Et puis, je dirais de manière plus générale, à quel type de regard on a affaire. Et là, c'est les premières questions qui, après, vont être celles sur la télé-réalité. C'est-à-dire, c'est quoi ce geste ? C'est l'exhibition, le regard qui est produit, c'est un appel au voyeurisme. On a affaire à une recherche d'attention, de célébrité, d'exposition. Voilà, on se pose des questions sur la sincérité ou plutôt l'authenticité de ce geste, et ça préfigure là aussi toutes les questions qu'on aura sur les autres dispositifs audiovisuels de ce type-là. À ce moment-là, on va commencer, avant même qu'arrive la télé-réalité, à parler de modèles comme l'extimité, la mise en scène de soi, d'expressivité, de nouvelles manières de s'exprimer avec les nouvelles formes médiatiques, d'automédialité. Et puis c'est vrai qu'il y a une approche qui apparaît à ce moment-là et qui ne va pas cesser jusqu'à très récemment, c'est un modèle de l'exposition de soi.
Oui, puis elles inaugurent des formes de célébrité qui sont aussi assez inédites et dont qu'on va beaucoup commenter aussi avec l'arrivée du love, c'est-à-dire c'est des anonymes qui deviennent célèbres sans avoir finalement de talent particulier. C'est en tout cas ce qui est dit, notamment à propos du loft. Et donc, il y a ce moment intéressant de rencontre entre Jennifer Ringley, Jenny Cam, qui devient donc célèbre grâce à sa caméra et sur Internet, et qui est dans le... Letterman's Late Show, donc qui passe en prime time à la télévision américaine, enfin en prime time, enfin qui passe en tout cas en... Et donc il y a cette rencontre entre cette star d'internet et le milieu de la télévision. Et donc je vous passe un petit extrait parce que c'est assez savoureux.
Welcome to the show.
Thanks.
Thank you very much for being here.
Not a problem.
Now, is this deal we're doing right here, is this also televised on the Jenny Cam? Have you got a camera on you somehow?
Actually, right now, what you get to see is my empty apartment.
So it's just exactly, this is life. This is your life. When you're there. When you ain't there, you ain't there.
Exactly.
You know, I want to tell you something. This to me, oh, nice nails. This to me is, I've heard a lot of stuff about the internet, a lot of, you know, yada, yada, yada about the internet. And I don't care about the internet. This to me is like the perfect idea for the internet. Don't you think?
I think so. Yeah. I mean, if you look around on the internet, there's so much that it, like, as far as broadcasting goes, it's just like TV on the internet. Mm-hmm. And I think what it needs is to have something that's made for the medium.
This will replace television as we know it now. This will replace television because this is really all people want. People are lonely and desperate. They're lonely, desperate, miserable human beings. They're reaching out. They want to see life somewhere else taking place. It's comforting, don't you think?
I think the thing is that if you turn on the TV, you can see wild America and you can watch lions and badgers and antelope eating and sleeping and doing what they do. But for some reason, wanting to see people doing the same thing
right.
is considered sick and perverse.
Well, I don't know about that exactly. But was this your idea? You created this? Nobody else had done this before you did it?
Right. Before me, there was the coffee pot cam, and where I got my idea from, the fish cam.
And this is an aquarium. Somebody's got his camera on the aquarium 24 hours a day, and people watch that. Is that what it was?
Exactly.
Yeah.
And I don't know if you know fish, but they're interesting for like 5 minutes.
That's right.
So I thought if a person were to do this, that would be more interesting.
Your little thing you got going is much better than that aquarium thing.
Don't
worry about a thing. You got no problem with those fish. Now, have other people started doing this since you did it?
There are hundreds of other people doing this now, yeah.
And how are those different from what you do? And does it worry you that you have this kind of competition?
I don't even consider it a competition, but the vast majority of them, almost all of them, are either paid strippers or...
How do you get those?
Et effectivement, et ils sont un certain nombre. Il y a notamment une autre camgirl très connue qui va le faire pratiquait donc ce qu'elle appelle un art plus life cam. C'est Anna Vogue, donc qui lance Anna Cam, elle, en 1997, et qui va quand même le faire jusqu'en 2009, et qui effectivement est regardée par le même nombre très important de personnes, en tout cas à l'échelle de l'internet de l'époque. Et elle se décrit comme une star de cinéma muet. Donc, dans les références, on oscille entre effectivement le cinéma et puis le documentaire animalier, parce que c'était un peu ce que disait Jennifer Ingley, que finalement, si on regardait des animaux vivre leur vie, pourquoi on ne regarderait pas des humains le faire ? Et ce qui est intéressant avec Anna Vogue, par exemple, c'est la question du retour à l'anonymat, en fait, après des célébrités, des moments de notoriété comme les leurs. Dans le cas d'Anna, sa présence en ligne a été archivée et aujourd'hui encore accessible.
Oui, et ça, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que dans la bouche de Jennifer Ringley et aussi dans la pratique de Anna Vogue, on voit l'importance d'archiver. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce qu'on appelle maintenant le live casting, c'est-à-dire diffuser sa propre vie, mais c'est aussi la documenter. Le terme apparaît aussi chez les deux. Donc, pour certains philosophes, d'ailleurs d'obédience foucaldienne, hein, comme Maurizio Ferraris, qui dit qu'on est passé là dans un modèle qui est celui de la documentalité, documenter sa vie. On n'est que dans des renversements dans ces histoires-là, parce que donc, le geste de la Jenny Cam et des Cam Girls, qu'on a appelé ensuite ainsi, c'est de renverser ce qui est montré avec la caméra, et donc de renverser aussi la surveillance. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça a pu être lu, c'est-à-dire quitte à être surveillé, autant que je sois moi-même l'opérateur de, de la surveillance, que je contrôle ma visibilité. Et ça va encore un peu plus loin dans des approches qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la sous-veillance ou le life logging. D'ailleurs, on aurait pu mettre une image aussi, avec un chercheur théoricien des médias qui s'appelle Steve Mann, et qui lui a carrément imaginé des prothèses qui pourraient se greffer à côté de son œil pour enregistrer tout ce que son œil voit quotidiennement et documenter toute sa vie à travers ce que lui voit. Vous voyez, un autre renversement, pas seulement produire des images sur sa vie, mais renverser le sens du regard et déjouer la surveillance pour en faire à la fois un spectacle et une source de documents qui pourraient être utiles si jamais il s'agissait d'aller chercher les propres archives de sa vie. Et donc, il y a un auteur qui, je pense, est bien connu, qui peut nous aider finalement. Alors, on va beaucoup parler d'Andy Warhol, mais peut-être qu'un philosophe, un historien, Walter Benjamin, qu'on connaît bien pour avoir écrit l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Le concept qui est central dans ce texte, c'est moins celui de reproductibilité que celui d'exposabilité ou de valeur d'exposition. C'est-à-dire qu'il entrevoit dans le milieu des années 30 qu'avec les nouveaux appareils, comme il dit, c'est-à-dire le cinéma à l'époque, il va y avoir une sorte de régime qui se met en place de course à l'exposition et à la circulation des images et à une sorte de montée en puissance de valeur de l'exposabilité. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on connaît Walter Benjamin pour dire oui, c'est la fin de l'aura, etc. L'œuvre d'art est en quelque sorte en train de décliner avec les formes d'exposition de l'œuvre, sa mise en image, sa reproductibilité. Mais dans ce même texte, il a une autre phrase que je trouve extraordinaire pour comprendre ce qui se passe avec les nouvelles médiations qui arrivent. Il dit, en 1935, bien avant Andy Warhol, il dit « Chacun a le droit, légitimement, maintenant, avec l'invention du cinéma, d'être filmé. Ouais. » Comme si on avait affaire à une sorte de revendication légitime, de droit. Ces nouveaux appareils nous donnent le droit d'être exposés, de faire l'objet aussi nous-mêmes d'une reproductibilité. Ce qui est fort par rapport même à ce que dira Andy Warhol, c'est qu'il évoque une sorte de droit. On a le droit de réclamer ce droit à être exposé. Donc, il voit venir ça. Et moi, je dirais qu'en fait, depuis, avec tout ce jeu de renversement que j'évoquais, en fait, on a une sorte d'extension du champ des revendications médiatiques expressives des individus. C'est-à-dire que progressivement, c'est vouloir être filmé, mais aussi avec la surveillance qui prend beaucoup de plus en plus de place, c'est revendiquer le droit à ne pas être filmé. Pour beaucoup de chercheurs en media studies, je pense à Wendy Shun, par exemple, qui a beaucoup étudié les caméras, les webcams. C'est-à-dire que c'est un moment où on voit une sorte d'empowerment, si on peut dire, en tout cas de désir de vouloir contrôler sa visibilité, d'être l'opérateur de sa propre visibilité, voire son propre filtre. Il suffit de penser, alors on va plus parler de l'archéologie que de ce qui se passe maintenant, mais effectivement, toutes ces revendications qui passent avec les nouvelles médiations, on veut filtrer son apparence, enfin on veut contrôler sa visibilité. Si vous entendez dans le champ actuel des médias, même l'argument des GAFAM, c'est toujours contrôler votre visibilité. Vous voyez, c'est contrôler votre exposabilité, comme aurait pu dire Walter Benjamin. Alors, je peux aussi enchaîner, si vous voulez, avec l'extrait de David Letterman. C'est un très, très intéressant, ce moment-là. C'est vrai. C'est le moment où la télévision regarde ce qui est en train de se passer sur le web. Et donc, c'est le moment où il y a quand même une inquiétude. Il y a quand même une inquiétude du côté du média dominant, une forme un peu de mépris, de regard amusé, de qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que ça va remplacer la télévision, etc. Et pour faire la transition, évidemment que l'histoire de la télé-réalité, On pourrait le dire simplement comme ça, c'est la réponse de la télévision à la menace d'une concurrence médiatique qui s'appelle le web, Internet, et notamment la webcam.
Et peut-être j'introduis l'extrait qu'on va regarder de We Live in Public, donc qui est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Ondi Timoner, donc qui est sorti, le film est sorti en 2008. Mais il avait été tourné en fait dans les années, à la fin des années 90, autour de donc ce fameux Josh Harris, qui en décembre 1999, donc vraiment pour passer le cette espèce de tournant de siècle, décide de créer une installation performance qu'il intitule Quiet et dont le sous-titre est We Live in Public. Et qu'il définit comme un événement slash performance slash fête slash expérimentation sociologique, ce qu'on va retrouver quand même ce vocabulaire de l'expérimentation sociologique dans la télé-réalité. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était au même moment où Big Brother était déjà diffusé aux Pays-Bas, donc il y avait aussi déjà cette concurrence, enfin cette de la télévision. Et donc, je vous propose qu'on regarde un petit extrait.
The name of the experiment is Quiet, We Live in Public.
Josh approached me to wire these capsule hotels with video cameras, microphones, and monitors in a way that you could interact between these capsules.
You change the channel, it changes you to other compartments in here. If you're both locked on the same channel, you can talk to each other.
Mm-hmm. You know, every science fiction movie has video conferencing. But in reality, only a few people have actually ever done it. Have you ever done it?
Two different buildings had four different floors, which were all wired together through a 75-channel TV station.
The cameras were everywhere.
There was cameras set up in the showers, in the toilets, in the kitchen, in the performance area, in each of the little pods in the pod hotel.
You can see what everybody does. Mm-hmm. It's not that it's, you know, who says that that's necessarily bad? It may be, and we'll find that out. It might be that you get so intimate with people in their intimate moments that you really get to know them. Or maybe we get people going to Bellevue. We're not quite sure.
As you get new and more interesting people in, you need the racks. Yeah. So you're going to have to kick them out.
No, natural selection.
You're going to have to be a kind of an exhibitionist in order to be wanting to stay here. Surely this is one big experiment, and maybe everybody will feel like celebrities here.
Mm. There's another element to this, which is we're going to record Stasi-type intelligence of what people are doing.
We start off with very basic questions, mm-hmm. and then we go into the groups, political, religious, psychological, emotional, sexual. And we'll have files on them, on such things as how the drug test came out, whether they liked their mother better or their father, whether they ever had anal sex or were in jail for any political activities.
To be a citizen of Quiet, you had to really give up a lot. There was a tremendous fascist overtone to the whole thing.
If you wanted to be involved, you had to be interrogated. And then you get issued a uniform.
Once you're in, you're not allowed to go out. Literally, you cannot leave the premises again.
We've got to make sure there's discipline in the ranks.
His vision was, you're going to wear my outfit, you're going to sleep where I tell you to sleep, you're going to eat where I tell you to eat, and you're going to exist here, and I'm going to film every part of it, from you hanging out, to you sleeping, to you eating, to you showering, to you shitting.
Don't bring your money with you. Everything is free, except the video that we capture of you. That we own.
Juste pour enchaîner avec cette idée des médias qui se regardent les uns les autres et remettre ça dans la temporalité. Donc effectivement, ça arrive fin 1999 avec la perspective de l'an 2000 et puis l'inquiétude quand même sur ce qu'on appelait à l'époque le bug de l'an 2000, hein, la peur que tout s'arrête. Et donc ça arrive en fait au moment où est diffusé effectivement aux Pays-Bas le premier Big Brother par Andemol de l'époque. Et d'ailleurs, dans certaines coupures de presse, on dit qu'effectivement, Josh Harris fait son propre Big Brother. Et là, sur les relations, peut-être juste un point de théorie avec très simplement un outil théorique très simple qui permet de comprendre comment fonctionnent les médias. on a vraiment affaire à des logiques de ce qu'on appelle de remédiation. C'est-à-dire, ces deux auteurs américains, Bolter et Grusin, qui d'ailleurs écrivent ça en 1999, hein, c'est sans doute l'ouvrage le plus important en théorie des médias, et qui disent qu'en fait, un média ne meurt jamais. Bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Il se retransforme, il se remédie, et notamment en regardant ce que font les autres médias. Et effectivement, arrivent les webcams, arrive ce genre de médiation qui prétend accéder à plus de vérité, à plus de direct, à plus de réalité. La télé-réalité va réagir à cette nouvelle forme de médiation de la vérité, de la réalité, en essayant de forcer le trait et donc en produisant des programmes d'enfermement, on y reviendra tout à l'heure, hein, de dispositifs qui prétendent faire accéder encore plus de réalité. Et on voit là que Josh Harris, finalement, qui est un industriel du web, qui a aussi des prétentions artistiques, va répondre à la télé-réalité en produisant son propre programme, son propre dispositif. Il faut savoir que lui, effectivement, il avait au préalable monté une chaîne de télévision, ce qu'on appelait à l'époque la télévision sur le web, une web télé, quoi, qui s'appelait Pseudo. Ouais. Et que, en fait, c'est avec une partie de l'équipe de cette chaîne de télévision qu'il a basculé dans cette initiative de créer un espace clos d'expérimentation, etc.
Mais ce qui est intéressant, en plus, c'est que là, on ne le voit pas dans l'extrait, mais il y a une des personnes qui a interviewé sur cette expérience parce qu'elle y a participé. C'est une curatrice, voire la directrice, je ne sais plus, du PS1 MoMA, ouais, qui dit que c'était vraiment l'événement artistique à ne pas manquer, enfin vraiment que ça venait finalement renouveler aussi, je pense, des propositions que eux pouvaient faire au sein de l'institution, et que effectivement la faune qui se précipite dans Quiet, c'est quand même majoritairement des artistes, des musiciens qui viennent faire une expérimentation. Et aussi, c'est vrai, un peu se réfugier sous terre, parce qu'on est quand même sous terre. Il y a quand même cette imagerie un peu du bunker, enfin d'une organisation un peu aussi militaire.
Ça remotive quelque chose qui est très important dans ces dispositifs-là. C'est-à-dire, c'est des utopies de la transparence aussi. C'est-à-dire des utopies où on va créer des univers de petites communautés qui vont être totalement transparentes à elles-mêmes jusqu'à vouloir tout montrer. Et ça, et d'ailleurs, ça renvoie même à l'histoire même des utopies qui ont toujours, de Thomas More jusqu'à Rousseau, etc., cet idéal de transparence. J'ai une petite citation que j'ai prévue sur ça, autour des avant-gardes. En fait, toutes les avant-gardes, le dadaïsme, le futurisme surtout, avaient aussi cet idéal de la transparence. Donc, je l'ai trouvé dans un article d'Emmanuel Aloha, qui a beaucoup travaillé sur la transparence. C'est un poète futuriste, donc italien, qui s'appelle Aldo Palazzecchi, et qui écrit quand même, on est en 1913, donc la version traduite, « Je rêve d'une maison de cristal, une maison comme un mortel pourrait posséder, qui n'aurait rien d'extraordinaire, mais qui serait toute transparente, en cristal. Vous me verrez manger, vous pourrez me voir quand je dors, surprendre mes rêves. Vous me verrez en train de faire mes besoins. Vous me verrez en train de changer de chemise, etc. etc. » Tous ces imaginaires de la transparence, de la maison de verre, hein, aussi, de l'architecture de verre. C'est des formes utopiques qu'on trouve dans les années 10, dans les années 20.
On a vu l'expérience se préparer. Donc, je vous propose de jeter juste un œil rapide à l'expérience en cours.
as time goes by, we're going to increasingly have our lives exposed in very personal and intimate ways. And we'll want that to happen.
Everyone keeps suggesting that this is going to turn into one big orgy and you know, watch it all.
Andy Warhol was actually wrong. His view is, of course, that people want 15 minutes of fame in their lifetime. Our view is that people want 15 minutes of fame every day.
They're eating and shitting and having sex in public, and people ate it up. It's highly embarrassing stuff, but yet this quest for fame, this quest to be noticed, is willing to go past all shame and just put yourself out there raw.
As they say, we live in public, so we're all sharing here, no secrets.
What's interesting to me about this project is because everything is exposed, there's a tension that I feel of how to get to know people.
Hi.
How are you doing?
Good. Do you need to get in here?
About 5 minutes.
Okay. I just wrote done. I just have to get my wrap.
There's all these people around you in close quarters, and the more you get to know each other, the more alone you become. That's what this environment is doing to me.
It's almost like I've become detached from myself.
Yes.
Like, you know, I don't care if I go and pee on camera anymore.
You know, when I'm sleeping, I'm being filmed. I don't even notice it anymore.
You're seeing this monitor 24 hours a day. You have no privacy.
No, not today.
I think what breeds madness is the feeling that there's everyone else's minds and everyone else's energies all encompassing you.
Get the camera out of my face, bitch!
Be aware.
See, to me, this is, I mean, it's a very interesting phenomenon. We don't realize how often we are being filmed. It's wrong to invade people's privacy with cameras.
Donc on voit l'expérience qui commence déjà un peu à dégénérer. Et qui va pas tarder à se terminer. Je crois que finalement, ça se termine par une. C'est la police qui vient les déloger juste après l'an 2000. Mais déjà, ils ont commencé à tous faire l'expérience de ce que ça produit en fait sur leur manière d'être et cet effet qui est décrit par une des participantes d'être détachée d'elle-même, puisque finalement, elle arrive à faire plein de choses qu'elle n'aurait pas pensé. Possible de faire devant une caméra.
Mais c'est vrai que la dimension expérience est aussi une dimension expérimentale. C'est-à-dire qu'on voit bien comment c'est des dispositifs comme le Loft, enfin comme Big Brother, mêlés, où il y a à la fois une dimension, je dirais, de spectacle, de réflexivité artistique sur la surveillance, d'expérimentation, de performance aussi, hein, artistique, d'expérimentation sociale aussi qui est très forte dans ces dispositifs-là, avec effectivement, on va dire, des phénomènes de redescente un peu brutale. Et ça finira, hein, on peut le dire aussi, c'est-à-dire qu'après cette mauvaise aventure, en fait, Josh Harish va continuer lui-même avec sa fiancée de l'époque à se mettre en scène et à être filmé en continu dans je sais plus si c'est le même lieu ou un autre.
Non, c'est dans leur appartement qui est complètement
quadrillé
de caméra.
Et là aussi, ça se terminera très très mal avec une rupture entre les deux et avec l'idée, en tout cas, qui est représentée dans le documentaire, que lui commençait à devenir fou, finalement, dans ce dispositif d'une vie totalement mise en public.
Voilà. Puis il y a la référence à Warhol, qui est quand même omniprésente. Mmh. C'est-à-dire que bon, lui, il reprend l'adage de Warhol, qui est que tout le monde... devrait avoir 15 minutes de célébrité dans sa vie. Lui, il dit c'est 15 minutes de célébrité tous les jours.
Oui, c'est ça.
Finalement, Warhol a aussi mené un certain nombre d'expérimentations précurseuses.
Warhol, qui est considéré d'ailleurs comme, on le sait moins, comme le pionnier de ce mouvement qu'on appellerait le surveillance art, et qui est aussi effectivement pionnier dans ce qu'on a pu appeler, évidemment, dans la continuité du pop art. C'est vrai que le modèle de la factory était aussi très présent dans le modèle de Josh Harris, qu'on appelait, qui s'appelait lui-même le Andy Warhol d'Internet. Et effectivement, ce principe, en fait, comme l'évoque le grand critique d'art Arthur Danto, de la transfiguration du banal, c'est-à-dire de la captation d'images, de scènes, comme dans Sleep, hein, qui sont, je dirais, apparemment sans grand intérêt, sinon de fixer de l'humain, enfin de scènes du quotidien ou des scènes qui sont directement captées dans la longueur.
Sauf que Sleep, il y a quand même un...
Oui.
Donc le film qui était censé durer... Enfin, qui était prévu qu'il dure 8 heures, c'est-à-dire le temps d'une nuit de sommeil.
Oui, c'est ça.
Finalement, il dure 6 heures, il me semble. Et c'est un montage d'une séquence...
Ouais.
Donc il n'y a pas cette question de la durée, elle repose encore sur le montage et pas sur le...
Elle est un peu feinte, oui.
Ouais. Et puis il y a cette pièce aussi qui est pour le coup, ouais, que reprend vraiment le dispositif de We Live in Public, c'est-à-dire de se regarder, de commenter sa propre image en direct.
C'est ça, dédoublement, de réflexivité. Et c'est ce film qui va être considéré comme... le premier film, 1965, je crois, dans le champ qui est assez important maintenant, hein, de l'art surveillantiel, qui rejoint un peu l'expérience que vous évoquiez dans We Live in Public, où on a une image filmée d'Eddie Sedgwick et sur laquelle on a en surimpression en fait la même actrice qui semble converser avec elle-même. Et donc, il y a un effet effectivement de déliaison de soi par rapport à son image captée, et donc qui produit un effet de réflexivité, effectivement, sur ce que c'est que, à la fois, son double, on dirait numérique maintenant, mais son double audiovisuel, et ce que ça produit, en fait, que d'être filmé, en fait. Hein.
Ça, c'est Outer and Inner Space, je crois qu'on ne l'a pas dit.
Ouais.
Peut-être avant d'en arriver au loft, on peut parler de cette question de l'expérimentation sociologique ou de l'expérimentation scientifique.
Ouais.
Cette expérience qui s'appelle Biosphère 2, qui consiste en fait en la reproduction de l'écosystème terrestre dans ce grand complexe qui regroupe en fait plusieurs biotopes qui sont ceux qu'on connaît sur Terre. Tout ça sous serre, je crois, au milieu du Nevada ou je ne sais plus quelle zone désertique américaine. Et entre 1991 et 1993, 8 scientifiques sont enfermés dans cette reconstitution. Il y a un petit côté un peu mission spatiale.
Ouais.
C'est un peu de ça dont il s'agit. Hein. C'est aussi quand même dans la même idée qu'il y a un imaginaire de l'an 2000 comme étant l'ère d'Internet. Il y a aussi cette idée que ce millénaire pourrait être celui d'une vie en dehors de la Terre et qu'il faut donc expérimenter... des formes de vie terrestre sous serre. Et donc ces huit scientifiques essayent de s'organiser dans cette reconstitution. Et là, c'est pareil, je crois que ça se passe assez mal, puisqu'il me semble que... Il y a des problèmes d'oxygène au bout d'un moment. Enfin, je crois que c'est assez catastrophique. Et donc là, pour le coup, c'est vrai qu'on retrouve vraiment cette architecture transparente parce qu'il me semble en plus que le site était ouvert au public et donc il y avait vraiment cet effet terrarium humain avec des gens qui regardaient ces scientifiques de l'autre côté de la vitre tandis qu'eux étaient quand même coupés de l'extérieur.
Absolument. Mais c'était une expérience très sérieuse, hein, oui, qui se voulait scientifique et qui voulait être vendue à la NASA pour effectivement expérimenter la construction d'environnements, de biosphères totalement artificielles, effectivement, comme vous disiez, dans l'idée d'occuper ou d'habiter d'autres planètes. Et effectivement, là encore, hein, ça prouve en fait que l'histoire des médias, elle est plus de l'ordre d'une archéologie, c'est-à-dire d'une multitude d'influences que d'une généalogie stricte. Anne Demol, John Demol, fait, les créateurs du premier Big Brother disent qu'ils se sont inspirés aussi de biosphère. En fait, on voit bien que là, on est dans une expérience vraiment de type scientifique, mais qui va effectivement reposer aussi sur une expérience sociale, c'est-à-dire cette expérimentation d'un environnement artificiel, ben, il débouche aussi sur l'expérimentation d'une vie sociale à l'intérieur, et qui effectivement montre en fait que avec le loft, si on va vers le loft ou Big Brother, on est dans effectivement la conjonction de toutes ces expérimentations artistiques, scientifiques au sens fort du terme, et puis plus de l'ordre de la vie sociale, expérimentation utopique d'organisation de communauté. Petite parenthèse. Le premier texte qui porte une utopie de la transparence dans l'histoire des idées, on va dire, occidentales, bah, c'est un texte qui est important pour notre propos sur la surveillance, c'est le Panopticon de Jeremy Bentham qui va nourrir la réflexion de Foucault dans « Surveiller et punir ». En fait, quand vous lisez le Panoptique de Bentham, il ne parle que d'une chose, c'est de transparence.
Bah, on arrive au loft.
Eh oui. Enfin.
Allons-y.
Bon célibataire coupé du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
Une fois cette porte franchie, pour les candidats, c'est le point de non-retour. Dès cet instant, ils vont découvrir l'univers qu'ils occuperont pendant 70 jours.
Eh bien voilà, nous sommes dans le jardin du loft. C'est par la porte qui se trouve derrière moi que les candidats vont entrer. Lorsqu'ils seront ici, ils seront complètement coupés du monde, ce qui veut dire pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, pas de journaux, absolument aucun contact avec l'extérieur.
Ce jardin de 380 mètres carrés orienté plein sud va devenir leur jardin. Ils vont en profiter, mais ils devront aussi l'entretenir. À leur charge, le potager, pommes de terre, salade, radis, qu'ils devront arroser et désherber, car le but, c'est de les consommer. À tour de rôle, chaque habitant devra tondre la pelouse. Attention, c'est sportif. Mais gare aux 5 poules qu'il ne faudra pas effrayer. L'entretien du poulailler, le ramassage des œufs est aussi à la charge des habitants, tout comme le nettoyage de la piscine, chauffée à 28 degrés. Dans les 225 mètres carrés du loft, les habitants ont une cuisine tout équipée, avec four et plaque électrique, mais pas de lave-vaisselle. La vaisselle, c'est à la main et c'est chacun son tour. De même qu'ici, la machine à laver est bannie. La lessive, c'est là, dans le cellier. C'est dans cette pièce également que sera apportée la nourriture depuis l'extérieur. Et pour ne pas tomber nez à nez avec un membre de la production, cet endroit fonctionne comme un sas de banque.
C'est par cette porte qu'un membre de la production viendra tous les 15 jours pour apporter les aliments de base, ce qui correspond à 1800 calories par jour et par personne, sur les conseils évidemment d'un nutritionniste. Mais ce n'est pas tout. Pour agrémenter leur quotidien, les candidats disposent également d'un budget de 250 francs par semaine et c'est sur ce tableau qu'ils écriront leur liste de courses.
Tous les repas doivent être pris en même temps et tous devront manger la même chose. Autre règle collective, faire le ménage. Il est à la charge de tous les candidats, de tous, sans exception. Suite de notre visite avec le salon, le cœur même du loft. C'est là que le groupe se réunira tous les jeudis pour connaître le nom de celui ou celle qui doit quitter la maison. Mais c'est aussi là que se dérouleront toutes les fêtes. Et pour garder la forme, il y a même un coin fitness. À quelques mètres du salon, le confessionnal. Une fois à l'intérieur, le candidat s'installe dans ce fauteuil. Il peut alors communiquer avec un membre de la production par caméra interposée.
C'est ici que les candidats devront au moins 5 minutes par jour faire part de leurs impressions et de leurs sentiments.
Pendant ce temps, leur tranquillité est assurée en permanence par un néon allumé à l'extérieur. Et pour cause, puisque c'est ici qu'ils nomment deux personnes qu'ils souhaitent voir quitter le loft. Entre ces murs, tout ce qui est dit reste strictement confidentiel pour les autres candidats, sauf pour vous qui regardez Loft Story.
Ah, on n'a pas vu les candidats, mais on a vu le cadre qui est quand même... c'est, tout est un peu axé là-dessus, parce que finalement, le générique, c'est avant tout le dispositif.
De mémoire, hein, 26 caméras, 50 micros. Il y a la surface, hein, vous avez vu, la superficie, 225 mètres carrés. Et puis, alors ça, c'est plutôt dans les primes qu'on l'entend à chaque fois. C'est aussi cette promesse de « vous allez tout voir ». Vous allez tout voir, c'est qui est obsessionnel. Et on voit bien, hein, si je puis dire, on voit bien effectivement un certain nombre de résultantes en fait de toutes ces sources qu'on a un petit peu énumérées jusqu'à présent, de tous ces imaginaires, hein, de l'expérience, de l'expérimentation, mais aussi de l'appel à la vérité, à l'exposition de soi des candidats, avec peut-être qui, pour moi, serait plus directement ce qui reste de toutes ces émissions de télé-réalité et qui est vraiment l'empreinte de remédiation, comme je disais tout à l'heure, de la webcam, c'est-à-dire cet effet confessionnal. Hein. D'ailleurs, c'est la chose qui reste encore dans les émissions de télé-réalité, c'est-à-dire ce moment un peu de relation frontale entre la caméra, un peu comme une webcam, et le candidat qui est censé raconter ce qu'il a vécu, un peu aussi sur un mode retour d'expérience, là aussi qu'on retrouve, qui est très présent dans le premier loft, hein, sur le prank. Vous avez deux psychologues, on a oublié ça, hein, qui sont présents sur le plateau pour commenter, comme si on observait vraiment une expérience en train de se faire. Et puis effectivement, M6 qui à l'époque parle de fiction réelle interactive, hein, c'est-à-dire à la fois une prétention, toutes les cases sont cochées, une prétention vers la fictionnalité, mais de réalité et interactive, puisque évidemment il y a une incitation à voter, à éliminer, puis après à nommer, enfin bon, tout le jeu de la télé-réalité de ce type-là. Et effectivement, là encore, on rejoint peut-être McLuhan. Hein, McLuhan qui, comme je disais au début, en fait, définit le regard qu'on a sur la télé-réalité comme un regard qui se demande en permanence à quoi on est en train d'assister et qui met en parallèle, et ça rejoindrait peut-être ce qu'on a vu avec les formes de performance ou de happening, où McLuhan, oui, dit que en fait la télévision ne montre jamais des produits finis, mais des produits en train de se faire. Et c'est vrai que si on regarde ce que c'est les programmes de télévision, le succès de la cuisine à la télévision, enfin vous voyez ce genre de truc, c'est la transformation. C'est toujours des processus qu'on est en train de voir. Et là, on a, en quelque sorte, avec la télé-réalité, sur le fond des sources médiatiques, artistiques, etc., autour de la vérité, du live, du direct, on a quelque chose qui est en train de se passer, dont on ne sait pas exactement, enfin, théoriquement, quel va être le résultat. Mais on regarde quelque chose en train de se faire et non pas quelque chose de fini.
Et ça perturbe la lecture puisque la réception du loft est quand même très mouvementée. Il faut dire aussi qu'il y a quand même une différence de casting là où il y avait des artistes essentiellement dans We Live in Public ou des musiciens, des scientifiques dans Biosphère. Là, le casting est composé d'anonymes qui ont été sélectionnés pour leur profil psychologique. Dans l'idée d'ailleurs de ce que j'avais oublié, de former un couple quand même à la fin,
ouais,
parce que c'est un couple qui gagne Love Story.
Mais ça, c'est la version euphémisée, parce que pour l'anecdote, c'est que donc ça arrive en 2001 en France. Pourquoi ? Parce que entre 1999 et 2001, tout le monde, toutes les chaînes vous disent jamais de ça en France. C'était une époque où on parlait de l'exception culturelle française. La télévision ne cesse dans une logique qui est celle de l'hypocrisie entre 1999 et 2001 de nous montrer les Big Brother des autres pays, hein, mais à l'envie, c'est-à-dire qu'on a plein de reportages très longs en disant mais vous voyez ce que vous voyez là, ça n'arrivera pas en France, mais on vous le montre quand même. Et puis en 2001, il y a quand même la chaîne Challenger, donc M6, qui se lance dans la mise, en diffusion du loft. Donc en fait, l'exception culturelle française, ça revient à on gagne 2 ans. Hein. Mais effectivement, la réception est absolument passionnante. Il faudrait vraiment en faire une histoire. On a oublié, mais c'est... Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu d'événements... Ah oui, voilà, c'est ça, vous avez...
J'ai mis les unes de Libé qui sont très proches, hein, parce qu'il y en a une du 3 mai et une du 13 mai. Ouais. Donc, ils font deux unes sur le loft. On voit quand même aussi le type de fantasme que ça... C'est le lien à la pornographie, la question du voilà. Voyeurisme.
On rejoue ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la Jenny Cam, c'est-à-dire la question sur le type de regard que ça produit. Fait unique, hein, Le Monde fait trois unes de suite sur le loft. Libé, j'avais oublié, tiens, c'est vrai que ça me fait penser. Donc on a les unes, mais on a un journaliste, d'ailleurs un très bon journaliste, encore actif, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle David Dufresne, qui est le journaliste télévision à l'époque de Libé, qui fait une chronique tous les jours. C'est-à-dire qu'il joue le jeu de la surveillance. On a vraiment là une quintessence de ce que c'est que la télévision. C'est un fait social, médiatique, total, comme dit Baudrillard. Baudrillard qui écrit un petit livre, hein, sur le loft. Tous les intellectuels de l'époque produisent un commentaire du loft. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de pièges scopiques, c'est-à-dire il y a des débats partout. Et puis, vous avez des lectures différentes. Donc, des lectures qui vont être extrêmement négatives, c'est-à-dire comme Patrick Lelay qui écrit une chronique, une tribune dans Le Monde pour dire « Jamais ça sur TF1, c'est honteux ce que fait M6, c'est de la pornographie. » Donc, pornographie, mais aussi camp de concentration. Hein, on a aussi ce genre de critiques extrêmement fortes. On a aussi des critiques plus molles qui vont être du genre « Oui, bon, en fait, malgré la promesse un peu disciplinaire qu'on a vue dans le premier Prime, ils foutent rien. » Enfin, je veux dire, c'est une sorte de Club Med. Et puis, vous avez des lectures artistiques, esthétiques du loft, hein, qu'on a un peu oublié. Il y a un cas qui est quand même célèbre. Alors, il faudrait voir aussi les ouvrages qui ont été écrits sur le loft. Il y a un livre très intéressant, d'ailleurs, qui s'appelle « Le loft et Marivaux ». C'est-à-dire qu'on y voit quelque chose du type du théâtre de Marivaux. Mais vous avez aussi le cas extraordinaire de...
Les cahiers du cinéma.
Les cahiers du cinéma établissent leur palmarès de l'année, les 10 meilleurs films. Et là, il y a à nouveau un geste qui consiste à mettre Love Story comme, sérieusement, en place 10. Enfin, c'est pas place 10, c'est plus Love Story.
Ouais, c'est un prix du... C'est comme le...
Prix spécial.
Prix spécial.
Mais bon, c'est... Sur le Loft 2, je me souviens, vous avez dans les In Rock, dans Technic Art, etc., des lectures romériennes. Bon, Jean-Jacques Benex... Il a fait un très bon film sur Loft, mais on n'arrive plus à le voir. Et donc, pour l'anecdote, vous avez un mouvement extraordinaire de désabonnement ou de menace de désabonnement des lecteurs des cahiers du cinéma, mais très sérieuse. Deux ans après, toute l'équipe de la rédaction des cahiers est débarquée et changée. Et on revient à l'époque. Hein, parce que c'est une époque où il n'y a pas que le love, c'est les cahiers du cinéma commencent à regarder ce que fait la télévision, les séries notamment. Et il y a un mouvement de rejet des puristes, des cinéphiles, etc. Et là, on remet à la tête des cahiers, pour le citer, hein, Jean-Michel Frodon, qui incarne, je dirais, la ligne dure de la cinéphilie des cahiers du cinéma. Bon, les choses ont changé depuis, d'ailleurs. Hein. Il y a un numéro d'Art Presse, par exemple, hein, sur le dispositif, très bon numéro d'ailleurs, où il y a des lectures tout à fait au sérieux, sérieuses du loft.
Et ce que vous disiez aussi quand, le moment de la préparation de cette soirée, c'est que ça s'inscrivait dans une histoire aussi de l'audiovisuel, c'est-à-dire que là on a parlé d'expériences qui se sont faites dans des cadres, on va dire, performatifs, sur Internet, mais qui a une histoire dans le cadre de l'audiovisuel qui est quand même une prétention artistique.
Tout à fait, ça j'y tiens parce que c'est trop peu connu. On a une histoire française d'un moment, hein, entre le milieu des années 60 jusqu'à 1975, où il y a une volonté de faire de l'art avec la télévision. Il y a une histoire comme ça, avec une figure très importante, qui est, qui est un peu oublié, méconnu. Pierre Schaeffer avec Pierre Henry et l'inventeur de la musique concrète, hein, donc une des sources de la musique électronique. On considère que Pierre Schaeffer, qui est à la fois un théoricien et un musicien, un théoricien de la musique, est l'inventeur du sampling, hein, rien que ça. Et par ailleurs, au milieu des années 60, il crée au sein de la RTF, ancêtre de l'ORTF, quelque chose qui s'appelle le service de recherche de l'ORTF. Il y en a qui connaissent. On parle de la télévision comme du 8e art. Hein, et on met en place des dispositifs télévisuels qui semblent alors là aussi une autre source, alors pas directe de la télé-réalité, mais qui disent quelque chose de ce que c'est que la télévision. Je vous donne juste dans un des textes de Pierre Schaeffer qui s'appelle « Les machines à communiquer », 1972, page 158 du deuxième tome. Non, mais ça a été très important quand j'ai fait ma thèse, justement. Pierre Schaeffer, on est en 1972. Hein, Foucault écrira « Surveiller et punir », qui est le texte sur le dispositif, qui crée le concept de dispositif de surveillance en 1975, donc 3 ans après. Pierre Schaeffer écrit en 1972 « Le dispositif de télévision peut être comparé au piège tendu à l'animal humain. » Vous voyez Jennifer tout à l'heure qui nous parlait des... « À l'animal humain pour sa capture en vue d'observation. » On a l'impression que Jennifer Ringley a lu Pierre Schaeffer. Ouais.
C'est possible.
Vous voyez, on a là une sorte de... Je veux dire, et il y a plein de dispositifs de télévision, je n'ai pas le temps de vous... peut-être de vous les raconter, qui sont imaginés à ce moment-là pour essayer, et Schaeffer il considère que voilà, les dispositifs de télévision peuvent permettre de produire de la connaissance un peu de l'ordre des sciences humaines et sociales sur l'individu et le groupe. Et je vous donne une anecdote, c'est que c'est un peu comme avec Josh Harris. Il y a une réflexivité avec l'équipe qui fait cette télévision et il crée une sorte de loft ou d'hôtel comme ça à la Big Brother. Eh bien, l'équipe de Pierre Schaeffer, c'était des chercheurs, mais dans le service de recherche de l'ORTF, qui deviendra l'INA quelques années après, qu'on connaît bien. Il y a par exemple des gens qui sont passés comme Chris Marker. Il n'y aurait pas la jetée de Chris Marker sans le service. En fait, il y a plein de choses qui sont créées à ce moment-là, voilà, qui sont un peu oubliées, pas connues, mais dans ce service. Et donc, l'équipe de Pierre Schaeffer, toutes les semaines, se réunit dans une pièce de l'ORTF pour faire une sorte de bilan. Il vivait son équipe un peu comme, effectivement, une sorte de communauté d'utopie. Et je vous assure que c'est vrai, vous lisez ça dans les machines à communiquer. Donc, ils ont une pièce au sein de l'ORTF où toutes les semaines, vous avez un psychologue social, vous voyez, un peu comme dans Koh-Lanta, hein, un psychologue social qui vient pour faire le point sur ce qui s'est passé pendant la semaine avec Pierre Schaeffer et son équipe. Cette pièce au sein de l'ORTF, elle a un nom, ils appellent ça le confessionnal. Donc, vous voyez, c'est tout à fait étonnant sur, en fait, ce que j'appellerais le fantasme de la télévision, une sorte de, comme ça, alors je ne dirais pas d'essence de la télévision, ça serait idiot, mais en fait, d'horizon de la télévision, c'est de faire des expérimentations sur le social, jusqu'à en faire des choses totalement débiles, hein, j'en ai bien conscience, mais regardez tous les programmes de télévision. La thématique de « on vit une expérience, on va participer à une expérience, regarder l'expérience, tu continues l'expérience, voilà, etc. », c'est obsédant de la télévision.
Peut-être on regarde rapidement, parce que je pense que ce serait bien qu'on oui. ouvre un peu oui, la oui. discussion, un extrait de « What a Flash », qui était une de vos suggestions. Donc là, on est dans le domaine du cinéma. En 1972, donc Jean-Michel Barjol, donc un réalisateur français, enferme pendant 3 jours et 3 nuits sur un immense plateau de cinéma 200 acteurs, musiciens, acrobates, peintres, et en leur donnant quand même un scénario qui est « Nous sommes en l'an 2000 ». Un groupe de condamnés à mort organise, pour le temps qu'il leur reste à vivre, une grande fête où ils pourront laisser libre cours à leurs fantasmes et à tout ce qui les désigne comme des marginaux. Je vous passe un petit extrait juste pour l'ambiance et pour les débats qui sont quand même assez intéressants que suscite l'expérience, justement.
Comment il réagirait à partir du moment où il serait dans cette situation?
On pourrait faire tous en même temps.
Exactement.
Ça sert à rien.
Il faut finir un petit peu l'analyse politique, un petit peu de la chose.
Ah non, on ne va pas faire de politique avec du 50 heures qui nous reste à vivre.
Une heure suffira largement.
Et est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on le sait vraiment si on va mourir?
Alors, dans le scénario, il ne faut pas oublier une chose.
Peut-être on ne va pas mourir. Moi, je crois qu'on ne va pas mourir, c'est mon droit.
Mais nous savons que nous n'allons pas mourir, parce que nous savons que nous vivons à la fois dans un studio.
Mais non, on ne parle pas du studio, moi je parle du film en ce moment, moi j'ai oublié que je suis dans un studio.
Mais alors, tu n'as rien compris au film. Le film, c'est pas un film, on n'est pas dans un film où tel metteur en
scène. Moi, je suis dans une capsule spatiale et on m'a dit que je vais mourir.
Mais toi qui comprends mal, sûrement.
Moi, je suis dans une capsule, tu n'arrives pas à t'enlever de ta carapace d'acteur.
Mais je ne suis pas un acteur.
Capsule spatiale ou pas? Sois toi-même. Alors, tu n'arrives pas à y croire.
Une seconde. Qui arrive à y croire?
Personne n'arrive à parler, tout le monde parle en même temps.
Moi, oui.
Alors, bravo.
Tu imposes ta volonté, tu ne demandes pas la celle du metteur en scène. Il y a un metteur en scène quand même. Il devrait être là d'ailleurs pour donner son avis, mais tu as tort.
Mais non, pas du tout.
C'est là où tu n'as rien compris au film.
C'est peut-être toi qui n'as rien compris au film.
J'aime bien le quiproquo sur ceux qui ont compris qu'il c'est dans un métafilm et ceux qui le prennent très au sérieux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bon, là, contrairement à la prototype de prototélé-réalité, il y a vraiment des caméramans qui se déplacent autour des participants, mais il y a cette idée de où est le metteur en scène, finalement d'un cinéma aussi un peu sans metteur en scène, où en fait le film va résider principalement dans le montage et moins dans la mise en scène a priori et plutôt dans le montage a posteriori, quoi.
Oui. Bon, ben là, il y aurait plein de choses à dire, hein, mais c'est vrai que c'est un film de dispositif, hein, qui imagine un dispositif avec une performance, un happening, des performances. Il y a des voilà, c'est
ça. C'est les années 70.
Voilà, c'est aussi une époque de la communauté, du débat, de la discussion. Bon, mais pendant ces trois jours, il y aura aussi des choses qui sont pas loin de ce qu'on a vu tout à l'heure dans We Live in Public, c'est-à-dire consommation de substances, coït, etc. Tout ça sera aussi montré. Mais effectivement, alors là, entre le cinéma expérimental et puis le dispositif, qui a aussi évidemment des sources cinématographiques dans cette histoire de télé-réalité, à la fois sur le versant des dispositifs expérimentaux, et puis quelque chose qui est très important, qui serait une autre source, qui est le cinéma vérité. Hein, et qu'effectivement, il y a quelque chose. Vous voyez, là, c'est plutôt les années 60, cinéma vérité, Jean Rouch, Edgar Morin. Il y a quelque chose, hein, dans l'imaginaire, parce que télé-réalité, c'est quand même une étiquette française, hein, pour appeler ça, entre cinéma vérité, télé-réalité. Vous voyez, il y a aussi une autre tradition d'un cinéma direct, en prise directe, avec le moins d'interventions possible. C'est peut-être ça aussi qu'on peut voir comme point commun. Et un cinéma vérité qui aura beaucoup, beaucoup d'influence sur le documentaire, évidemment, et puis qui nous amènera à une dernière, peut-être, source importante de la télé-réalité. On considère, là, d'un point de vue plus généalogique qu'archéologique, que le premier reality show, comme disent, ou reality series, comme disent les anglo-saxons, c'est un documentaire extrêmement important qui s'appelle An American Family. Hein, voilà. Bon, on va peut-être pas entrer trop dans le détail.
Non, mais c'est à la même époque exactement que What a Flash, ouais. Puisque c'est filmé en 71 et diffusé en 73 sur la télé, à la télé publique américaine.
Ouais.
Et quand même, je ne sais pas si c'est... Il y a une ironie quand même un peu dans cette histoire, puisque on suit cette famille qui s'appelle la famille Loud. Donc je ne sais pas si Josh Harris avait cette histoire en tête quand il a créé Quiet, mais bon, c'est quand même assez, ouais. Assez étonnant quand on repense à tout ça. Et donc oui, en effet, c'est le premier reality show
considérée comme telle sous la forme du documentaire. Je ne sais plus, ça a été tourné. Donc, ils suivent une famille de gens ordinaires, plutôt aisés quand même, mais sur 6 mois, je crois qu'il y a 700 heures de rush. Et ils en composent une douzaine d'épisodes qui vont être effectivement diffusés et qui est le grand modèle, alors là, d'un autre maillon important sur MTV dans les années 90, The Real World, hein, qui a aussi eu son influence sur la télé-réalité, où là, on mettait, vous voyez, ça évolue un petit peu. Là, on capte de manière directe la réalité de la vie d'une femme. Et puis, on crée un dispositif plus artificiel avec la série de MTV, où on met une dizaine de jeunes dans un appartement et on les filme dans cet appartement, hein, pour voir comment ils vivent, abordent certains sujets, etc. Et puis, on voit très bien comment, je veux dire, la construction d'un cadre, d'un dispositif artificiel va aller jusque effectivement nos dispositifs d'enfermement de télé-réalité.
Alors peut-être vous avez compris, on parlera pas des évolutions de ce dispositif d'enfermement qui est aujourd'hui quasiment révolu en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça correspondait quand même à un moment de la télé-réalité et qu'aujourd'hui, à part le confessionnal ou quelque chose une interview face caméra, il reste pas forcément grand-chose de ces. Enfin, la télé-réalité est quelque chose de beaucoup plus aujourd'hui scénarisé, produit, etc.
Alors là, le fantasme de refaire des programmes d'enfermement ne lâche pas les télévisions et peut-être même les nouvelles plateformes. Hein. Par exemple, c'est passé un peu inaperçu. Amazon a créé un programme qui s'appelait The Circle, tiré alors à la fois d'un roman qui a eu un succès important, qui imagine effectivement une société dystopique de surveillance absolue autour des GAFAM. Mais The Circle, ce qui était intéressant sur Amazon, c'est qu'on n'était pas loin de We Live in Public, c'est-à-dire que les candidats étaient dans une... Chacun avait son appartement, sa chaîne de télévision, voilà. Sauf qu'ils ne se voyaient pas les uns les autres, mais le but, c'était de gagner en popularité ou je ne sais plus exactement quoi. Mais donc, vous voyez, ça continue de se remédier. Et pour vraiment finir platement, TF1 travaille à nouveau à son nouveau Star Academy. Enfin, voilà, le fantasme de recréer... Des émissions d'enfermement est toujours là. Et je pense que des dispositifs, on en verra. C'est le propre de la télévision.
Bah, merci beaucoup, Olivier. Merci à toutes et tous d'être venus. Merci à l'équipe de la Maison Pop, l'équipe de Dieu.